Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie, avec aujourd'hui Céline Bonhomme et Olivier Daligo à la technique, et assisté de Marion Lelay, Jean-Christophe Pinaza, mon camarade d'écriture, c'est Xavier Pessugia qui réalise l'émission. Aussi allons-nous débuter par une petite humeur en forme de baromètre avec le mensuel Terre Sauvage de ce mois d'octobre qui se penche non pas sur la météo mais sur les comptes de la biodiversité ordinaire avec ses milliers de variétés de plantes et d'animaux mais qui vivent à deux pas de chez nous, hein, au détour d'une route, d'un parc ou d'un jardin. Alors on ouvre les yeux, on oublie un instant les célébrités du genre l'ours, la baleine, le panda, le tigre de Sumatra. D'ailleurs vous connaissez le proverbe « aux grands animaux, les grands remèdes », c'est très amusant. Et donc son corollaire aussi, très peu de moyens mis en œuvre en France et ailleurs pour sauver les parents pauvres de la biodiversité, c'est-à-dire les chenilles, les papillons, le lys printanier, la bluglose crépue et autres représentants d'une faune et d'une flore, pas forcément des plus médiatiques. Malgré quelques succès, c'est-à-dire une aire marine protégée par-ci, des corridors écologiques par-là, les récifs de coraux de Nouvelle-Calédonie classés au patrimoine de l'humanité. Et bien, faut le dire, l'objectif affiché par la France de stopper la disparition des espèces sur son territoire d'ici 2010, c'est-à-dire l'an prochain, elle a un peu de plomb dans l'aile. Au sommet du mercato des espèces, donc, vous avez d'un côté les nouveaux arrivants, avec dans le genre un peu envahissant l'algue verte, ouais, qui empeste les côtes de Bretagne, le frelon d'Asie, mais oui, qui nous boulotte la moitié de nos ruches, et puis côté départ, vous avez par exemple la faune et la flore des 8 zones Natura 2000 traversées par l'autoroute Pau-Langon. La relance du trafic des autos et des camions, on le sait, c'est pas difficile. On bétonne d'abord, alors certes plus intelligemment qu'avant, et puis on compense carbone à l'autre bout du pays, hein, quitte à sacrifier quelques espèces locales. Le vison d'Europe et les crevisses qui nous écoutent à pattes blanches apprécieront. Conclusion. Est-ce qu'on ne serait pas un tantinet, on va dire, schizophrène en ce début de 21e siècle, tiraillé comme les chasseurs entre la proie et l'ombre, avec notre réussite qui se mesure au nombre d'écrans plasma, de voitures vendues, de centrales nucléaires, de rafales et de points de croissance qu'on va chercher, clac, avec les dents. Alors Nicolas Hulot nous pose gentiment la question dans son film qui sort mercredi. Y a-t-il un capitaine à bord de cette planète qui, comme le Titanic, pousse les feux au-delà du raisonnable pour battre les records ? En avant toutes, voilà, et donc peu importe si le baromètre annonce donc du gros temps droit devant. Et oui, notre grand timonier, comme on dirait en Chine, hein, on a fêté donc les 60 ans d'une république pas si populaire que ça. Pour la fête nationale à Pékin, on avait tout prévu, hein, y compris les avions de combat contre le mauvais temps, avec leur plein d'azote liquide et d'iodure, d'argent, prêts à intercepter les méchants nuages et faire tomber la pluie, allez hop, plus loin du côté des réjouissances. Précaution inutile, puisque comme les baromètres l'avaient annoncé jeudi au-dessus de la place Tiananmen, il faisait un bleu soleil, un bleu ciel merveilleux, comme dans une publicité. Et si on les consultait un peu plus souvent, nos petits baromètres, hein ? Alors vous l'avez compris, eh bien c'est cet homme qui revient avec le syndrome du Titanic qui est notre invité.
La crise écologique ne peut en aucun cas se résoudre sur le dos de la pauvreté. Et les moyens pour y faire face doivent permettre simultanément de remédier aux deux fléaux. L'urgence, la gravité, la complexité des crises et des menaces nous oblige à une mutation radicale, en revisitant notre imaginaire jusqu'aux frontières de l'utopie.
Alors, je crois que vous l'avez déjà compris au niveau du ton, le syndrome du Titanic, c'est pas, il n'y a pas de confusion possible avec la croisière s'amuse, hein, vous allez voir ça. Donc là aussi, maturation, changement et puis autre vision des choses. Vous apprécierez pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait réagir quoi qu'il arrive. Et puis, on aime bien la pédagogie active aussi. On donnera en fin d'émission la parole à une association. C'est le réseau Graines Centre, parce qu'ils sont un peu répartis comme ça en région. Donc c'est de la pédagogie tout à fait active. Nous en parlerons avec Éric Pérou et nous débutons par Thomas Fersen. Bon alors, petits oiseaux, bon, il y en a encore, mais oui, même si la biodiversité fout le camp, le bal des oiseaux.
Au printemps de ma vie, je quitte mon père. La ville attend les petits rats des champs. Une jolie fermière me dit: où vas-tu? Monte derrière avec les laitues. ciel, chez les hirondelles. Nous filons doux et la route est à nous. Petit, la vie est belle à l'école buissonnière. Nous irons danser au bal des oiseaux près de la rivière. Les prés sont verts, quel âge as-tu toi? De pain. La campagne se prête à tout, mais la ville pas du tout. Nous irons danser au bal des oiseaux près de la rivière.
Je ne suis pas né écologiste, je le suis devenu. Parce que longtemps j'ai vu le monde tel que je souhaitais qu'il soit. Je me suis souvent accommodé avec la réalité, mais en fait on ne peut pas éternellement lui tourner le dos. J'ai peur. Peur et mal en même temps. D'abord je ne reconnais plus le monde et l'humanité que j'ai aimé. J'ai peur pour mes enfants. Et pour tous les enfants du monde. On se bat bien pour des mots ou des concepts, alors... Qu'en sera-t-il quand les ressources élémentaires viendront à manquer ?
Hulot, rencontré donc en début de semaine dans sa fondation éponyme à Boulogne. Alors c'est un film, Le syndrome du Titanic, qui est sur la misère, qui est sur des gens qui souffrent, sur la manipulation, sur la destruction de la diversité, qu'elle soit environnementale ou bien culturelle. C'est aussi un film sur l'absurdité du monde et l'insulte d'un système à bout de souffle qui est fait à l'humanité. Donc c'est un film qui est politique. Et c'est aussi un sacré virage, qui est le résultat donc d'une maturation. Et on ne peut plus se satisfaire du monde tel qu'il est. Donc, première question, en fait, pourquoi ?
C'est-à-dire qu'on peut toujours la tamiser, hein, on peut laisser les angles morts, sauf que la réalité, elle a pris une telle dimension, une telle fulgurance, une telle complexité. Elle charrie derrière une telle dimension de menace que là, on peut lui tourner le dos, mais on va sentir son souffle très rapidement et personne ne sera épargné. Donc, je pense qu'on ne doit en avoir peur de cette réalité que si, justement, on essaie de l'occulter. C'est vrai que c'est plus agréable parfois de voir le monde tel qu'il est, de voir l'humanité telle qu'on souhaite qu'elle soit, de penser que le progrès est un processus irréversible dans les mains duquel on peut s'abandonner, parce que dans ces cas-là, on n'a qu'à juste attendre que le temps passe et nous prenne en charge. Sauf que la marche triomphante du progrès, sans être
machiavélique qui a quand même pris du plomb dans l'aile, quoi. Elle a des allures de malentendu. Quelque part parce que, cyniquement, on a trop bien réussi. Oui. On est victime de notre succès. Alors, je dis nous, mais certains n'ont pas vu le progrès. Il y a quand même 3 milliards d'êtres humains pour qui ça reste quand même une notion abstraite. Mais enfin, tout n'est pas acheté dans ce qui s'est passé depuis 150 ans. Sauf que la conséquence du progrès, c'est qu'on est plus nombreux, tant mieux. Mais on pèse beaucoup plus sur la planète, plus qu'elle ne peut le supporter.
La fameuse empreinte écologique.
Voilà. Et puis, simultanément, malheureusement, ce progrès n'a pas profité à tout le monde et même creuse de plus en plus les écarts de richesse. Alors, on pourrait se dire, bon, de quoi se mêle-t-il ? En quoi tout cela est lié à l'écologie ? Tout ça est lié parce que la crise écologique ne peut pas se régler sur le dos de la pauvreté, qu'elle accroît d'ailleurs et qu'elle va accroître. Et que les instruments qu'on doit mettre en place pour régler la crise écologique doivent permettre simultanément de régler la crise de la pauvreté. Pourquoi est-ce qu'on doit régler les deux simultanément ? Parce qu'il y a deux contraintes auxquelles on ne peut pas échapper. Et quand je dis que ce sont des contraintes, le mot est faible, ça veut dire qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que les choses se réguleront de gré ou de force. La première contrainte, on peut le comprendre, c'est la contrainte physique imposée par la planète. Donc si on efface le disque dur de la nature, s'il n'y a plus de ressources, s'il n'y a plus de matières premières, ben, il n'y a plus d'économie.
Et puis on n'a pas forcément envie d'aller sur Mars tout de suite. Donc,
voilà. En tout cas, on n'est pas capable d'y aller dans un laps de temps court. Ajouté à la contrainte climatique, dont on sait que les modélisations les plus prudentes sont quand même assez effrayantes. Et puis la deuxième contrainte, c'est la contrainte sociale. Et pourquoi est-ce que c'est une contrainte ? Pas une contrainte morale, parce que chacun peut placer ça sur le niveau qu'il veut placer. C'est que dès lors que les inégalités ne cessent de s'accroître, et que simultanément la planète ne cesse de se connecter, de se relier, de se découvrir, vous ne pouvez pas condamner ceux que le système oublie à une double peine qui est une d'être exclu et deux en plus d'être condamné à rester les bras croisés et si possible avec le sourire. Et on voit bien que ça ne marche pas. Et on voit bien que cette humanité qui souffre et qui souffre d'autant plus que la crise écologique vient aggraver leurs difficultés, évidemment provoque dans cette exposition une humiliation, une frustration et même une réaction.
Et vous pointez très bien le virtuel, effectivement, voilà. Dans le film. À un moment, il y a cette image d'ailleurs assez superbe où vous avez donc les pyramides d'Égypte et puis vous avez toutes ces paraboles qui sont derrière.
Oui, parce que justement, il faut assumer le succès de la communication qui fait que justement, maintenant, toutes ces inégalités se voient, les contrastes se rapprochent. Et donc, ça, la nature humaine, elle est ce qu'elle est, elle réagit. Et donc, si nous, on ne fait pas en sorte de partager nos richesses plus efficacement, eh bien, cette nature humaine-là, enfin, cette palette de l'humanité-là, réagira. Et elle commence à réagir. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la montée d'un certain nombre de conflits, ça veut dire le déplacement massif de populations. Et donc, l'idée qu'on puisse, nous, raisonner en Europe ou en Occident, derrière nos frontières, et s'affranchir des réalités au Sud, c'est un truc qui ne marche plus. Ça ne marche plus dans un monde mobile, dans un monde nomade, alors que nos sociétés sont, elles, sédentaires. Donc, on n'a pas le choix, au début du XXIe siècle, de prendre en charge ces deux priorités qui, malheureusement, ne sont pas des petites affaires parmi d'autres. C'est quand même des affaires très compliquées, qui remettent en cause nos fondamentaux. Et quand je dis ça très calmement, ça veut dire qu'à partir du moment où c'est complexe, ça va nécessiter des mutations profondes, des sacrifices profonds, mais aussi des choix profonds. Et dans le mot sacrifice, surtout, il ne faut pas y voir quelque chose de désespérant et d'affligeant. Au contraire, je pense que ces renoncements seront profitables individuellement et collectivement, parce qu'on a été trop loin dans l'excès. Et que ce qui est en cause, c'est notre incapacité dans tous les domaines, y compris dans les pratiques financières et économiques, à nous fixer des limites. L'homme est inapte à la limite. Et là, ce carrefour de crise nous impose de fixer des limites.
On est donc face dans ce film aux nos limites, aux laminoirs du monde marchand. Et alors ça se traduit aussi par des décalages et des accumulations. Là, vous parliez de ce côté complètement dément. Donc on voit évidemment des bagnoles dont on n'en plus finir, des cimetières d'avions. Et puis on voit aussi d'ailleurs un ancien palais qui est transformé en parking sur un air d'opéra.
Un ancien opéra, en fait.
C'était carrément un ancien opéra.
C'est un ancien opéra, oui.
D'accord. C'est quel endroit d'ailleurs ça ?
Ça, c'est à Détroit. En fait, Détroit, c'est une ville qui est devenue totalement à l'abandon. C'est le capitalisme qui s'est effondré. Et dans le downtown, dans le centre de Détroit, il y a cet opéra qui a été transformé en parking.
Jean-Albert Lièvre, hein, je ne vous ai pas présenté, parce que vous êtes quand même le co-réalisateur, aussi le co-scénariste de ce film, du syndrome du Titanic. Il y a un travail de montage absolument dingue.
En fait, on a tourné pendant 48 semaines et étalé sur presque un an et demi. Et à chaque retour, on dérochait déjà un petit peu ce qu'on avait fait. En tout, on a dû tourner presque 300 heures. On a eu des rencontres totalement improvisées, comme d'ailleurs cet opéra à Détroit, où cette femme sur le parking de Los Angeles downtown. Oui. Donc il y a des petits éléments comme ça qui sont venus s'intercaler sur le synopsis déjà écrit, mais le montage s'est passé de manière très linéaire.
Alors Nicolas, donc c'est un film aussi, je le disais, sur l'absurdité du monde, c'est-à-dire que vous la présentez lorsque vous avez des marchandises de l'Est qui viennent croiser des marchandises de l'Ouest, et on voit ces deux cargos avec les mêmes marchandises qui sont en train de se croiser au milieu de l'océan.
Alors, entendez bien, hein, je ne fais pas un procès du progrès et du XXe siècle. Le XXe siècle n'a pas commis que des bêtises et il a quand même largement participé à améliorer la condition humaine, il faut quand même le dire. Sauf qu'on on arrive au bout d'une logique. Oui. Et que dans un monde qui ne s'étend pas au gré de nos sollicitations, dans un monde où on multiplie tous les matins les besoins, ben voilà, on voit bien que un élève de CM1 peut comprendre, au bout d'un moment, il faut trouver un point d'équilibre. Donc c'est vrai que compte tenu des contraintes actuelles, qui sont notamment les contraintes climatiques, qui nous obligent à réduire nos émissions de gaz à effet de serre par 4, ce qui est quand même pas rien, compte tenu de la contrainte de la fin du pétrole, que très peu de gens réalisent en termes de mutation, parce qu'on n'a pas de plan B pour se passer du pétrole, c'est vrai qu'il y a des choses qui paraissent totalement schizophrènes. C'est-à-dire que quand on voit ces flux de marchandises entre l'Est et l'Ouest, et parfois même entre le Nord et le Sud, avec des produits à l'identique qui se croisent dans une débauche énergétique, on se dit qu'il faudrait peut-être à un moment ou à un autre mettre fin à ça. Ça ne veut pas dire qu'il faudra relocaliser toute l'économie, mais il y a des flux qui ne sont pas compatibles avec la réalité énergétique et nos engagements pour lutter contre les changements climatiques.
Il y a aussi cette station de ski complètement dingue du côté de Dubaï, me semble-t-il, dans les pays arabes. Et puis là, vous avez 45 degrés dehors, et puis à l'intérieur, effectivement, on fait du ski. Vous avez ces barres.
Alors pourquoi pas tout ça? Pourquoi pas, à la limite? Pourquoi pas tant qu'on pense ou qu'on est dans l'abondance? Je veux dire, pourquoi pas? Si l'homme humain, je sais bien qu'il y ait de la créativité, de l'excentricité, j'espère qu'il y aura un peu de place encore pour le superflu demain matin, et qu'on ne va pas tomber simplement dans une société d'ascétisme et de privation. Mais encore une fois, là, on a des contraintes qui sont énormes, qui nous imposent des révisions fondamentales, et cette espèce de civilisation du gâchis que l'on illustre par un certain nombre d'exemples, mais vous savez, je cite souvent cet exemple quand on voit les producteurs de langoustines en Écosse pêcher leur langoustine localement, les envoyer se faire décortiquer en Thaïlande et retour pour être commercialisé en Écosse, ben pourquoi pas quand l'énergie est abondante, mais au moment où on est en train quasiment de toucher le fond de nos ressources en énergie fossile, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on devrait justement préserver la ressource pour faire en sorte que la transition énergétique soit la moins brutale. Parce que plus on va aller vers la rareté de la ressource, plus évidemment les plus riches et les plus forts pourront en profiter, et toujours au détriment de ceux qui ont encore la tête sous l'eau.
C'est pas bon pour les démocraties tout ça. Hein.
Ben, déjà les démocraties, faut pas croire qu'on soit civilisé en profondeur.
On a un vernis.
Voilà, on a un vernis. Mais quand on va vers la rareté, quand on va vers le rationnement, et quand en plus on doit subir des phénomènes naturels violents comme ce qui s'est passé par exemple à la Nouvelle-Orléans, pour ne parler que de ce qui se passe en Occident, parce qu'on ne parle même pas de ce qui se passe dans des pays asiatiques ou dans des pays du Sud, on voit bien que nos bonnes manières démocratiques n'y résistent pas plus d'une journée. C'est chacun pour soi. Voilà, parce que l'homme, il est comme ça, il est humain, et c'est simplement une mise en garde. C'est que l'idée là, c'est de faire en sorte de contenir les phénomènes. Et j'insiste bien, les deux phénomènes écologiques et les phénomènes sociaux, parce qu'à un moment, on va perdre la main. Mais on a les moyens, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on n'est pas démunis. L'homme n'est pas...
C'est pas une fatalité.
Enfin, ça peut le devenir, oui. Mais pour l'instant, c'est du fatalisme.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie ?
L'écologie.
Et dans l'écologie, la diététique. On a tout lu sur la diététique.
Olivier, ne te vante pas, vous avez lu quelques livres sur la diététique.
Non, maman, j'ai tout lu sur la diététique, tout.
C'est passionnant, ça.
Vous connaissez la doctoresse Kousmine ?
Non.
C'est un génie.
Et la macrobiotique ?
Ça, oui, un peu. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là ?
Ils disent qu'on mange de la merde.
CO2, mon amour, Denis Chessou. I tried to do handstands for you. I tried to do headstands for you. Every time I fell on you, yeah, every time I fell. I tried to do handstands for you, but every time I fell for you, I'm permanently black and blue, permanently blue for you. Thank you.
C'était Chairlift sur France Inter. Alors, il était une fois une petite planète qui est située à la bonne distance du Soleil pour que la vie puisse s'épanouir, combinaison improbable d'atomes, et qui se fiche, mais alors complètement, de notre présence sur son dos. Oui, bah oui, on est arrivé il n'y a pas si longtemps, et qui à un moment nous dit « négocier avec moi, avec le climat, je suis désolé, non mais je vais réajuster, je vais faire des réajustements parce que vous n'avez pas l'air de complètement comprendre. » C'est-à-dire que fumer 2 paquets de cigarettes par jour et vouloir vivre jusqu'à 110 ans comme vous le souhaitez, ça ne va pas être possible. Alors on retourne effectivement dans ce syndrome du Titanic, et le film est donc ponctué aussi de phrases de personnalité telle Paul Virilio.
Le 20e siècle sera le siècle des grands mouvements de population. C'est le Haut Comité pour les réfugiés qui l'annonce. 1 milliard de personnes vont bouger d'ici 2040. C'est un mouvement sans précédent. C'est un mouvement historique. 1 milliard de personnes, c'est comme si la Chine partez en voyage.
Tout à l'heure, je parlais aussi de la destruction au niveau culturel. Et là, vous avez ces images très fortes où on voit ces femmes imba en abîmi qui font leurs courses au supermarché. Elles sont donc en costume traditionnel. Puis après, donc, elles vont mendier l'argent des touristes comme dans les safaris, quoi, pour survivre. Et là, on se dit aussi que cette mondialisation, c'est tout le contraire du monde. Et la
diversité. Elle
n'a
pas fait dans le détail. Elle a généré, peut-être encore une fois, pas d'une manière mal intentionnée, mais le résultat est là. Il y a un préjudice irréversible au XXe siècle, c'est la perte des cultures. La perte de la diversité culturelle, on mesurera et on commence à mesurer le préjudice que ce sera pour l'humanité. Parce qu'on est riche, on est fort, on est imaginatif dans la diversité, on l'est évidemment beaucoup moins dans l'uniformité. Et ça vaut d'ailleurs pour les hommes comme ça vaut pour la nature. Et donc cette uniformisation tant du vivant que du culturel, ça c'est une des conséquences insoupçonnées parce qu'avec une vitesse dingue. Dingue, parce que le modèle occidental a opéré comme une espèce de laminoir géant. Et d'ailleurs, en disant ça, je ne sais pas quel est le remède à ça. Et c'est vrai que le commerce, entre autres, le tourisme y a beaucoup participé, mais Internet, la télévision, voilà. Et qu'il y avait probablement, comme on le dit dans le film, des voies de civilisation différentes pour les uns et les autres. Mais je suis pas certain qu'on leur a laissé beaucoup de choix, quoi.
Alors parlons aussi, parce que c'est aussi un film donc, qui interroge sur l'avenir. Je dirais qu'entre le ciel écolo qui va nous tomber sur la tête, entre le catéchisme des gestes écologiques qui sont nécessaires mais qui sont pas suffisants, entre le veau d'or qui est toiletté aujourd'hui d'économie verte et qui doit quand même rapporter entre 10 et 15% par an, on nous fait croire quand même qu'il n'y a pas d'autre système économique et de pensée. Et on sent en même temps une population qui est quand même prête à dire « donnez-nous autre chose ». Il y a des gens qui ne sont quand même pas justement complètement soumis à cela. Et ça, c'est plutôt stimulant.
Je ne sais pas si on nous fait croire. Je crois qu'il y a un grand désarroi de nos élites. Ils sont pris de court.
C'est-à-dire que leur, oui, parce qu'ils n'ont plus rien à promettre.
On leur a, comment dire, on a été dans un conditionnement. Il y avait un modèle qui était conditionné à une forme de croissance exponentielle.
Voilà. Et dont la gauche et la droite se satisfaisaient.
La croissance était la solution. Elle a été dans un certain nombre de domaines, mais encore une fois, elle devient maintenant le problème. Et ce modèle-là, pour l'instant, il n'y a pas de plan B. Et donc tout le monde est un peu pris de court. Alors on s'entête, on corrige, on aménage, on verdit un peu. C'est mieux que rien, c'est une transition. Sauf qu'il va falloir aller beaucoup plus loin dans la mutation et sortir de deux principes qui nous ont conduits jusqu'ici. Le premier principe, c'est le principe technologique. Jusqu'à présent, sans se soucier de savoir si ça participait à l'épanouissement du genre humain, on faisait les choses parce qu'on savait les faire. Ça, il va falloir le remettre en cause. Et le deuxième principe, c'est le principe économique, c'est-à-dire tout ce qu'on peut se payer, on se le paye. Là, les deux priorités, qui est la protection de la planète pour faire court et le partage des richesses, vont nous obliger à trier dans les possibles. Alors, trier dans les possibles, c'est une formule, mais c'est très concret sur un plan politique, c'est-à-dire qu'il y a des choix, et dans des choix, il y a des renoncements et il y a des acquiescements. Et la notion de renoncement, auquel j'ajoute tout de suite l'adjectif consenti, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit dans un processus démocratique, ça, on n'y est pas du tout prêt. Non. Voilà, si demain on dit, pour prendre un exemple, fini, pas une bagnole au-delà de 50 grammes de CO2, ça veut dire en creux, pas une bagnole qui puisse rouler au-delà de 110 km/h, je ne suis pas certain que ça passera très bien. Si demain, il y a un certain nombre de produits dont il faudra se priver parce que sur un plan énergétique ou sur un plan environnemental, on aura d'ailleurs, au passage, encore largement de choix. Mais il faut quand même qu'on réduise nos choix parce que, encore une fois, à l'aune des critères énergétiques, des critères environnementaux ou des critères sociaux.
Pierre Radan a coutume de dire que ce qui nous manque, c'est d'avoir rêvé ce siècle collectivement, ce siècle donc à venir. Alors, dans un monde où la com et le maniement des symboles tiennent quand même en partie lieu d'action, qu'est-ce que l'on peut dire à un jeune pour qu'il puisse se projeter dans un avenir? Qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui?
Souvent, il se tourne vers nous et dire qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, quel est notre rôle? Nous, on a déjà nos propres angoisses. On ne sait pas sur quoi nos études vont déboucher, si tant est qu'on ait encore la possibilité de faire des études. Bon, voilà, il y a une perte de repères terrible parce qu'on est une société atomisée. La famille n'opère plus, les racines n'opèrent plus. Enfin bon, je comprends. Donc tout ça s'ajoute. On n'a pas besoin, franchement, on n'a pas besoin de ça. On serait bien passé de la crise écologique et de la crise sociale
et humanitaire. Et mal compensé par les objets virtuels, quoi. Plus.
Alors, première chose, c'est que si demain, par bonheur, nos politiques, enfin, font preuve d'audace et de créativité, ils nous proposent un monde, justement, dans lequel il y a des limites, dans lequel il y a des choix, dans lequel il y a des renoncements, ben, nous, les citoyens, parce que, mine de rien, dans la démocratie, on a quand même notre mot à dire, hein, à des moments très précis, il faudra qu'on les valide. Il faut même qu'on les demande, ces limites. Parce que ce que je veux dire aux jeunes, et je ne m'exclus pas, non pas que je sois jeune, mais j'ai pensé comme eux pendant un moment, c'est que l'absence de limites, ça n'est pas une expression de la liberté. C'est une expression contraire. C'est au contraire l'expression d'une addiction. Et que la limite, c'est la condition de la liberté. Et que le fait de s'être mis des limites dans rien, y compris, encore une fois, dans le secteur économique et financier, puisqu'on a laissé carte blanche à toute cette sphère de la finance pour arriver aux outrances que l'on connaît, eh bien, il faut des limites. Mais pour qu'il y ait des limites, il faut accepter que le rôle des États soit redéfini. Et comme on aimerait bien que les États, c'est une tendance, aient de moins en moins de responsabilités, de moins en moins de pouvoir, c'est contraire aux contraintes actuelles.
C'est pas dans leur logiciel.
Il faut réhabiliter la puissance publique, mais en même temps, réhabiliter aussi la démocratie. Et réhabiliter la démocratie, c'est que les citoyens doivent se faire une opinion, une appréciation, pas simplement le nez collé sur leurs ordinateurs, mais basée sur leurs propres connaissances et leurs propres expériences. Donc, prenez un peu de distance avec tout ça. Soyez pas dans le réactif, soyons pas dans le panurgisme. Refusons pas les choses. Essayons de comprendre que d'abord, acceptons la complexité des choses. Rien n'est simple. Et voilà, il n'y a pas de solution simple et de problème simple. Et donc voilà, c'est essayer d'avoir un peu de maturité dans l'analyse, dans la réflexion, et comprendre encore une fois, j'y reviens, parce que les limites s'imposeront par la force des choses. C'est-à-dire, n'imaginons pas qu'on a le choix de faire et de rien faire. on a le choix effectivement de faire ou rien faire, mais de faire ou de subir. Et que si on subit, c'est-à-dire si on subit les phénomènes, qu'on soit jeune ou vieux, riche ou pauvre, au nord, au sud, laïque ou religieux, on s'en prendra tous plein la figure.
Alors on peut toujours se dire qu'effectivement l'homme sera grand quand il est au pied du mur, lorsqu'il a des guerres à affronter. Comment en fait arriver à changer ces temps ? Il y a le temps du politique, il y a le temps de l'économique, il y a le temps de l'environnement, il y a le temps du social, et tout ceci actuellement ne fonctionne pas bien. Donc on rase parfois un petit peu gratis, on a effectivement des actions qui sont réelles, qui ont évolué depuis quand même quelques années aussi, même dans notre pays. Le Grenelle, c'est juste une étape, c'est une boîte à outils que vous suivez d'ailleurs de très très près, mais c'est peut-être pas encore la mutation que l'on souhaite.
Comment on change d'échelle ? Comment on rentre dans le dur ? J'en sais rien. Parce qu'il y a une inertie culturelle terrible, parce qu'on a toujours plus urgent à faire, parce que mine de rien, il y a des résidus de positivisme dans nos sociétés, oui. C'est-à-dire du fait que ça va s'arranger. Donc je ne sais pas, nous à notre niveau, ben voilà, ce film veut y contribuer, un livre veut y contribuer, mais voilà, ça n'est qu'un film, qu'un livre, dans un pays qui est responsable pour 0,5% de tous ces désordres. Donc voilà, mais en même temps, voilà, il faut, chacun doit contribuer, quand je dis dans le film... qu'il faut qu'on incarne le changement qu'on veut voir naître, il faut aussi se poser la question. Et puis chacun peut aussi procéder à ses propres renoncements et acquiescements. Chacun peut avoir ses exigences. Il ne faut quand même pas sous-estimer que les phénomènes qu'on combat, ils vont être des sacrés rappels à l'ordre. Donc de toute façon, si on détourne l'attention un peu trop longtemps, on va se prendre quelques petits rappels à l'ordre sur la nuque et qui vont nous obliger à réagir. Parce que ce qui est d'ailleurs un peu paradoxal, c'est que tout ça est très abstrait. Dans nos sociétés occidentales, changement climatique, comme le dit notre camarade Claude Allègre, avec beaucoup d'ironie, sauf qu'il y a quand même 300 000 morts dans le sud qui en meurent chaque année, on est toujours en short l'été et en doudoune l'hiver.
J'ai entendu un député aussi dire ça, on va pouvoir vivre en strict.
Non, mais c'est vrai que c'est abstrait. L'érosion de nos ressources, c'est abstrait parce que nos magasins sont toujours bien achalandés, donc a priori, il y a toujours les matières premières, etc. Le pétrole, les gens voient toujours qu'il y a du pétrole à la pompe. Donc tout ça, c'est d'ailleurs ce qui rend le combat difficile. Et les changements climatiques, alors les modélisations dont on nous parle, les migrations, etc. On nous dit qu'il y a des centaines de milliers de gens qui se déplacent déjà. On les voit à peine, de temps en temps une image furtive au journal télévisé de ces pauvres êtres qu'on reconduit de l'autre côté de la frontière. Enfin bon... Mais ce n'est pas parce que la vie des gens est difficile qu'on doit faire de concessions avec cette réalité-là. Parce qu'encore une fois, elle est là, elle est d'une dimension dingue. Voilà. Comment ? Je ne sais pas. Parce que ce qui est le paradoxe, c'est que ce n'est pas un défaut de moyens. C'est un problème de volonté coordonnée. Mais peut-être que la crise économique et financière qui contraint les États quand même à se réunir plus souvent que de coutume et qui montre bien quand même que... Je vois quand même revenir sur le tapis des choses, ce qu'on me renvoyait dans les gencives il y a encore quelques mois. La taxe Tobin, par exemple, la taxe sur les transactions financières. Donc vous voyez bien quand même qu'ils sont obligés quand même de regarder un peu ailleurs. Et j'espère qu'on va être capable d'ouvrir ce que j'appelle l'armoire des utopies. Parce que dans l'armoire des utopies, comme disait Théodore Monod, l'utopie, ce n'est pas ce qui est irréalisable, c'est ce qui a été irréalisé. Et vous verrez qu'on ira chercher peut-être, on est condamné à être créatif, y compris dans le modèle économique. Parce qu'il y a l'économie, au passage, c'est une science, et il y a une économie à reconstruire, à réinventer, puisqu'il y a eu deux modèles dominants qui, pour des raisons différentes, sont arrivés à terme, en tout cas qui ont échoué. Mmh. Ben là, il va falloir en inventer un troisième qui passera, encore une fois, par la régulation des États. Ça, le rôle des États est renforcé, mais quelque part, tant mieux. Tant mieux, puisque nous, les hommes, on est désespérément humains. Et quand on est désespérément humain, ça veut dire qu'on n'est pas forcément apte à la limite. Tant mieux, c'est ce qui fait notre charme. Sauf que là, comme les contraintes nous obligent à nous fixer des limites, c'est aux États de nous les fixer. Et donc, nous, les citoyens, on doit dire, je vous en prie, fixez-nous des limites, comme un enfant. Oui. Vous ne lui fixez pas de limites, s'il n'a rien pour s'appuyer, il se casse la figure.
Des volcans de colère, une mer de la tranquillité, des rivières de larmes amères, un rire à fleurir des vallées. J'ai des jardins de tendresse, des recoins de baisers volés, des falaises au bord de l'ivresse, des regrets qui font la marée. Viens,
viens dans mon panorama. Viens, viens, je t'attends dans mon panorama. J'ai des souvenirs en cascade, une île dans la solitude, de l'insouciance en promenade, un vague à l'âme dans les Bermudes. J'ai des déserts paradisiaques et des enfers de volupté, un monstre noir au fond d'un lac et l'ironie dans un bosquet. Viens, viens dans mon panorama. T'attends dans mon panorama. J'ai la mémoire en acropole, une réserve naturelle, un désespoir au-dessus des pôles et l'espérance au pied du ciel. J'ai un océan à franchir pour un continent inconnu. Es-tu prêt à le découvrir? Le regard vierge et les mains nues. Le regard vierge et les mains nues. Le regard vierge et les mains nues.
Kent sur France Inter dans Ce haut de mon amour, c'était donc Panorama, une voix d'un homme que vous connaissez, Théodore Monod.
Actuellement, dans notre civilisation technocratique emballée, on en arrive à faire les choses, non pas tellement parce qu'on les a jugées utiles à la suite d'une réflexion honnête et parfois longue, mais uniquement parce qu'on a le pouvoir matériel de les faire. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement grave au point de vue intellectuel.
Et ça nous emmène bien sûr assez loin. Alors, question à Nicolas Hulot, est-ce que vous n'en avez pas, je dirais, un peu assez, peut-être des colloques en tout genre? On est assez spécialiste en France, pourquoi pas d'ailleurs, ou ONG, élus, entrepreneurs, experts, économistes, écologiques, scientifiques, se précipitent régulièrement, tout le monde acquiesce, tout le monde a des bonnes idées. On va dire que la prise de conscience, elle est quand même faite depuis un certain temps. On peut se tromper, hein, toute la population n'est pas forcément totalement imprégnée. Mais ce qu'on attend quand même maintenant, effectivement, c'est un passage à l'action.
Vous voyez bien dans ce film, c'est une manière de dire, OK, le constat est là,
voilà.
Maintenant, so what ? Les petits gestes, c'est très bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer, même aller plus loin.
Puis c'est une porte d'entrée aussi.
Mais c'est une transition importante. Mmh. Le développement durable dans nos sociétés est très sympathique. Mais
c'est quand même un cachet du capitalisme, plus ou moins.
Mais ça ne suffira pas. Ouais. Voilà. C'est pas, encore une fois, moi, je ne suis pas là pour faire le procès du capitalisme. D'ailleurs, il faut voir ce qu'on met derrière le mot capitalisme, parce que tout n'est pas acheté dans le capitalisme. Mais voilà, une société ultralibérale n'est pas compatible avec la réalité physique et sociale du monde. Voilà, enfin, c'est placer ça au niveau idéologique, pour moi, c'est presque indécent. Je veux dire, c'est du bon sens. Et voilà, alors maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'il faut attendre la démonstration du pire pour agir ? Voilà, nous, ce qu'on veut souhaiter, c'est que justement qu'on n'attende pas, qu'on ait encore les cartes en main et faisons en sorte qu'elles ne nous aient pas totalement échappé.
Alors, l'avenir n'est pas exactement écrit, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. À titre personnel, bon, on peut se réjouir évidemment de l'avancée d'Europe Écologie, qui était en fait un vote, on va dire, d'adhésion à des idées et pas forcément d'ailleurs un vote politique. Si vous devez voir que les politiciens traînent encore un peu, qu'ils vont avoir du mal, est-ce qu'il y aura peut-être d'autres actions aussi à mener de votre part ?
Vous savez, moi, je n'ai pas de stratégie à long terme. Je m'adapte en fonction de mes intuitions du moment. Pour l'instant, toute notre énergie au niveau
Vous êtes écouté, ça, c'est une chance.
Oui, mais nos énergies, pour l'instant, sont tendues sur Copenhague. Nous, notre horizon s'arrête là. Essayer que le chèque soit le moins lourd possible, oui. Parce que ce ne sera pas une réussite. Non. Voilà. Donc la mobilisation est là. D'ailleurs, puisque vous m'en donnez l'occasion, en tout cas je la saisis, vous savez que les ONG françaises et européennes ont lancé un appel à soutenir ce qu'on appelle l'ultimatum climatique. Comme on dit trivialement, ça ne mange pas de pain, mais ça peut aider les délégations et aux négociations. Donc en allant sur le site de toutes les grandes ONG environnementales, vous pouvez cliquer et soutenir cet ultimatum.
Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, les ONG concernant les droits de l'homme, le social, enfin, tout le monde est regroupé. Hein. Ce n'est pas que l'environnement.
Vous voyez bien, si la CGT, le CFDT faisaient partie de la conférence de consensus sur la commission ROCA, est-ce que vous croyez que ce n'est pas parce que derrière, ils ont bien en ligne de mire l'intérêt des travailleurs et des salariés, qu'ils ont bien compris que ces sujets-là allaient aggraver leurs conditions, qui est déjà difficile. Donc voilà, ce sont des sujets éminemment sociaux. Ceux qui pensent, encore une fois, que l'écologie, c'est une préoccupation de riches, que c'est un déplacement d'affection. Enfin bon, c'est des vieux clichés que j'entends depuis 20 ans. C'est un devoir de riches. Parce qu'encore une fois, les riches en sortiront probablement mieux dans un premier temps. Ils s'en prendront pour leur grade dans un second temps. Mais voilà, c'est un devoir. Quand je dis de riches, entendez par là ceux qui ont un peu de marge de manœuvre. Les sociétés comme les individus, voilà.
Sobriété heureuse, ça c'est un terme qui vous plaît, hein. Ça avait été lancé par
Pierre Rabhi. Mais quand les gens comme Pierre Rabhi ont des formules magnifiques, ou quand Jean-Baptiste de Foucault parle de société d'abondance frugale, c'est pas la peine d'essayer d'en réinventer un meilleur, qu'on fera pas mieux.
Jean-Albert Lièvre, qu'est-ce que vous a appris ce film, vous qui avez quand même quelques fuseaux horaires dans les pattes depuis déjà très très longtemps, mais qu'est-ce qu'il y a eu de différent avec le syndrome du Titanic ?
Qu'est-ce qu'il y a eu de différent ? D'abord, on est allé à la rencontre des hommes, et moi, j'allais auparavant plutôt à la rencontre du monde animal. Donc ça a été une expérience professionnelle nouvelle d'être au contact des gens dans ces grandes mégapoles, parce qu'on a pris le parti pris dès le départ de filmer l'homme dans son milieu, et aujourd'hui, le milieu de l'homme, c'est le milieu urbain. Ça m'a rendu plus solidaire, plus proche des gens, plus concerné. Mon sentiment de lien aussi bien avec la nature qu'avec l'homme, qu'avec les éléments, c'est renforcé à l'issue de ce film.
Est-ce qu'on peut dire, Nicolas Hulot, qu'aujourd'hui vous êtes dans un état, on va dire, de semi-impuissance ? C'est-à-dire qu'on sait très bien la croisée des chemins. On dit ça depuis un certain temps, les uns les autres, mais là on est quand même à une espèce de point de bascule. Et les gens ne veulent pas encore complètement croire cette affaire-là. Et à un côté, encore une minute, s'il vous plaît, monsieur le bourreau. C'est-à-dire qu'on essaye encore de continuer, d'améliorer ce 20e siècle qui est fini, de le ménager.
Parce qu'on sait les choses, mais on n'y croit pas.
Oui, c'est ça.
Et puis, il y a encore une fois, toujours plus urgent à faire. Dans nos sociétés, vous savez, il ne faut pas tout mettre sur le dos des politiques. Les politiques, ils ne sont pas arrivés là par hasard. Hein. Dans la démocratie, on les a quand même en général choisis. Et que nous portons aussi, nous les citoyens, nos propres contradictions. On veut le changement, mais sauf quand on doit l'éprouver.
Bonus, malus, c'est bon, parce que là, on gagne. Mais effectivement, là-dessus,
donc voilà. Et puis, on a ce que j'appelle cette tragédie sociale, commune à toutes nos sociétés, qui préempte toutes nos énergies, qui est le chômage. Et jusqu'à présent, toute l'énergie politique, économique, des acteurs de la société, c'est pour résoudre ça, ce que je comprends. Hein. Et donc c'est au détriment de cette lecture-là, voilà, parce que parfois, évidemment, selon qu'on raisonne dans des échelles de temps courtes ou longues, ça remet en cause certains secteurs d'activité, ça en déploiera d'autres, donc c'est compliqué. Mais là, bon, je commence à sentir quand même qu'on commence à prendre le taureau par les cornes. Mais la difficulté, en tout cas dans nos sociétés, en France et en Europe, si on veut être objectif, quand même l'Europe est plutôt en pointe sur ces sujets-là.
Oui.
Elle commence même à remettre en cause le modèle économique et presque financier, hein, ce qui est quand même, si on se projette un an avant, moi je suis quand même assez bien placé pour voir que certains interlocuteurs pour reprendre la taxe Tobin ou pour reprendre les fameux bonus de ce monde de la finance, c'était des sujets tabous. Vous verrez que la notion de croissance sélective et de décroissance sélective, on va y revenir. Mmh. Bon, voilà. Et donc les choses évoluent. Si on avait 50 ans, les choses naturellement se reviendraient à la raison. Le problème, c'est qu'on n'a pas 50 ans. C'est que c'est maintenant que les choses se déterminent. Et c'est ça qui est... Voilà. Alors, moi, j'ai cessé de me poser des questions, de savoir si ce qu'on fait sert à quelque chose, si ça va. Bon. On n'en sait rien. Et comme on n'en sait rien, il faut agir. Voilà. Moi, je rappelle toujours que dans des périodes troubles de notre histoire, où là, il faut aller du vrai courage, pas juste du paraître, notamment quand notre pays était occupé, que les mecs faisaient sauter des trains dans le Vercors. Mmh. Ils devaient se dire que ça ne servait à rien. Sauf que les mecs mettaient vraiment leur vie en jeu. Et pour finir, ça contribuait à la victoire. Ben là, on est dans une forme de guerre. L'investissement des uns et des autres demande beaucoup moins de courage physique, juste un peu d'énergie. Donc, on ne doit pas justement céder à la résignation. Et comme on ne sait pas comment ça va se terminer, ben dans le doute, il faut agir. Voilà.
On a compris que dans ce film, on était loin donc, du monde qui était beau, vu d'avion, vu du LM ou bien de vélo. Il paraît que vos sponsors ont été un peu surpris. Hein, ils n'étaient pas là derrière, de toute façon, au montage, mais enfin, qu'ils étaient... ils s'attendaient à autre chose. Quoi.
Alors, au passage, ce n'est pas nos sponsors. Nous, on a des producteurs qui sont allés chercher des financiers qu'ils aient différemment apprécié. On n'en a pas de détails, Jean-Albert et moi. Mais c'est normal que ce film soit différemment apprécié. Ce n'est pas un film fait pour plaire. C'est un film pour bouleverser et provoquer une remise en cause. Mmh. Donc, ce qui serait ennuyeux, c'est justement que ce film ne provoque rien. Voilà. Donc, il faut qu'il ouvre à cette remise en cause, à la discussion. Et pour ça, il faut qu'il dérange un peu.
Sans tomber du tout dans le monde idéal, puisqu'on sait que tout est extrêmement complexe, le cahier des charges de ce 21e siècle, qu'est-ce que c'est ?
Oh ben, il est pour moi extrêmement simple. Hein. C'est pour l'instant flécher tous nos moyens sur les deux priorités dont je vous parlais tout à l'heure. Protéger nos ressources, la planète, hein, au sens large du terme, et partager. Et dès lors qu'il faut concentrer nos moyens, ça veut dire qu'on ne peut plus se disperser sur tous les fronts le temps qu'on ait réglé ces deux équations. Et donc, on doit mobiliser le génie humain, on doit mobiliser notre économie, on doit mobiliser nos énergies sur ces deux priorités. Et c'est pour ça qu'il faudra probablement un temps suspendre un certain nombre d'autres objectifs. Voilà. On ira sur Mars plus tard.
Oui, c'est identifier les vrais problèmes et réfléchir à ce qu'on peut faire pour améliorer les choses.
Nicolas Hulot, Jean-Albert Lièvre, merci à vous et puis à bientôt.
Merci Denis.
Merci.
On a encore donc un petit peu de chemin à faire, vous l'avez compris, le syndrome du Titanic, donc film assez messianique, on peut le dire, qui sortira mercredi. La pédagogie active, on aime ça aussi dans cette émission. Et on va aller dans le centre de la France. Et là, voilà, on va s'intéresser aux petites graines, aux enfants avec vous, Éric Perroux. Bonjour.
Bonjour Denis.
J'entends les enfants derrière vous, c'est normal. Hein,
Nous sommes dans une école, Denis.
Et bien voilà, et vous-même vous êtes instituteur. Vous appartenez à ce réseau qui s'appelle le réseau Graines. Alors, des graines, il y en a un par région. Après, on va s'intéresser à vous dans ce département de l'Indre-et-Loire. Quel est le but de ce réseau ?
Alors, au départ, c'est donc une émanation du réseau national École et Nature. Et le Graines Centre fédère toutes les associations d'éducateurs à l'environnement d'une région. Pour ce qui est du Graines Centre, ça représente les six départements de la région et du coup aussi de l'Académie Orléans-Tours.
Et ce sont donc des enseignants, des professeurs des écoles, des instituts qui s'y mettent
Pas seulement. Alors, oui. Il y a trois types d'adhérents. Il y a d'une part des individuels, qui peuvent être des naturalistes, des gens intéressés par les problèmes de l'écologie, des associations qui travaillent donc dans la protection et l'éducation à l'environnement, et puis aussi des collectivités locales ou des structures de l'État. C'est très varié.
Le but, c'est de créer le contact entre les jeunes et la nature ?
Alors, le but, c'est de fédérer les énergies pour qu'il y ait un meilleur fonctionnement de l'éducation à l'environnement.
Éric Perroux, alors vous êtes instituteur à l'école Louis Blanchard. Nous sommes à Louroux, 317 habitants dans l'Indre. Je sais qu'il y a un étang...
L'Indre-et-Loire,
pardonnez-moi. Je sais qu'il y a un étang à côté de chez vous. Comment vous faites ? Concrètement, racontez-nous ce que vous faites avec les gamins.
Alors, dans notre commune, nous avons une école. Il y a deux classes. Il y a 50 élèves. Mais dans le village d'à côté, nous sommes regroupés. Il y a six autres classes. Et à 50 mètres de la grille de l'école, il y a un étang, 56 hectares, et puis un prieuré fortifié dans le village. Dans le principe, mes élèves, ce sont des CE1 et des CE2, ils ont donc entre 7 et 9 ans, Ils étudient l'étang, la roselière, la forêt, on fait de l'ornithologie, le moulin de Prieuré, donc ça soit en sciences, en géographie, en histoire, pour ensuite, et c'est là que c'est très original, parce que je ne connais pas d'autres projets où ça marche comme ça, ce sont les enfants qui accueillent d'autres classes et qui se transforment en guides de terrain, en guides nature, et qui font découvrir aux autres tout ce qu'eux-mêmes ils ont appris.
Apprendre par les autres et pour les autres, c'est un peu votre slogan.
Je trouve qu'effectivement, on procède aussi de la pédagogie coopérative et c'est apprendre pour soi, bien sûr, pour les autres et grâce aux autres. Effectivement, c'est bien ça.
Et donc après, bah, vous formez évidemment des générations de gamins qui, sans du tout l'opposé, ne seront pas que sous des MP3, mais qui vont aussi un petit peu savoir ce qu'est un écosystème, savoir qu'il y a une relation entre l'étang et l'eau potable, etc. etc.
Et oui, et entre autres, quand on reçoit la liste pour pour la rentrée, il y a un matériel un peu spécifique. Chaque élève doit avoir une paire de bottes.
Et oui.
Parce qu'on ne peut pas travailler autour de l'étang sans y aller. On ne va pas travailler à partir de films documentaires ou de livres seulement. On va bien sûr aller sur le terrain.
Éric Pérou, vous avez dit une chose intéressante, c'est que par exemple, des cours d'histoire, de géographie, de sciences, on s'en doutait un petit peu, mais d'autres matières donc, peuvent être faites à partir de cet élément, par exemple, qu'est l'étang ?
Forcément, si je dois transmettre à d'autres sur le terrain, je vais travailler l'oral. Comment je mets mes idées en ordre, comment j'organise mon discours, j'utilise le vocabulaire rigoureux au bon moment, je structure mes phrases, donc là on est maîtrise de la langue orale. Nous créons des livrets de visite et des dossiers que nous remettons aux classes, donc là c'est la langue écrite, hein, et on ne va pas mettre sur des panneaux d'exposition ou dans des documents qui vont être diffusés des textes qui ne seraient pas correctement rédigés.
Donc vous faites du français, de la grammaire à travers cet élément, c'est-à-dire qu'en fait c'est un peu une des bonnes définitions du développement durable, c'est-à-dire que c'est tout à fait transversal. Votre matière première, on va dire, c'est la nature, chez vous, on va dire, c'est cet étang, et puis de là, eh bien, vous étendez cela, vous déclinez l'histoire, la géographie, le français, bah, les mathématiques aussi.
Oui, c'est autant que faire se peut, j'essaie de faire rentrer certains éléments du programme dans ce projet.
Voilà.
Ce qui est intéressant, au-delà de ça, il y a aussi une dimension du vivre ensemble, comme on appelle pour les CE1. Et c'est la perception de certains enjeux, entre autres pour le développement durable. Et je voudrais juste donner un exemple. L'année dernière, au mois de novembre, le conseil général, qui est propriétaire de l'étang, a inauguré un sentier de découverte. Eh bien, ce sentier de découverte, à l'origine, c'est une proposition de ma classe de 2003-2004. Et ils se sont dit, mais c'est idiot qu'il n'y ait pas plus de gens qui puissent découvrir tout ce que nous, on voit. Il faudrait que les gens puissent venir et découvrir en autonomie. Il faudrait des panneaux, des explications. Et ils ont pensé le sentier, les postes d'observation, le contenu de panneaux. Mais en même temps, ils ont bien senti qu'il y avait un souci. Alors, c'était intéressant de voir que des enfants si jeunes pouvaient avoir une sensibilité à certains enjeux importants. Faire découvrir au plus grand nombre, ça ne posait pas de problème pour eux. Mais s'il y a trop de public, c'est un risque pour certaines zones fragiles autour de l'étang. C'est-à-dire qu'ils ont bien conscience que on peut étudier, mais on peut aussi faire des bêtises quand on n'est pas assez informé.
Éric Pérou, je vais vous laisser à vos enfants pendant la récréation. Un grand merci à vous donc, pour cet exemple de pédagogie tout à fait active. Nous étions donc avec vous à Louroux, donc dans l'Indre-et-Loire, et donc vous appartenez à ce réseau graines, et particulièrement ce réseau graines-centre. Graines, parce qu'on imagine bien que vous semez évidemment des petites graines comme ça dans la tête des gamins. Quoi.
Et notre travail d'instituteur, c'est faire que la graine qui pousse n'ait plus besoin de nous. Elle est autonome, après on enlève le tuteur.
Youpi, merci à vous Éric, à bientôt.
Au revoir, Denis.
Merci à Marion Lollet, notre assistante, à Jean-Christophe Pinaza, à Xavier Pestugia qui a réalisé l'émission, à Muriel Pérez, notre programmatrice, et à Anne Gouzon qui a nourri les sites de CO de Mon Amour. La semaine prochaine, on fêtera une association, on fêtera les 40 ans d'eau et rivières de Bretagne. Il y aura Eric Orsena, il y aura Jean-Claude Pierre, il y aura Gilles Huet, donc on parlera de l'eau, on parlera un peu de nitrate, un peu d'algues vertes, figurez-vous, là aussi, oui, tout à fait. Ce sera donc la semaine prochaine.